RTL Soir jusqu'à 20h,
on refait le monde, Marc-Olivier Fauchel.
À 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le président de la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Bonsoir Pierre Berger.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir à tous.
Avec le politologue Roland Cayrol, bonsoir.
Bonsoir.
Et on la conseillère en communication, Valérie Lecap. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Marco.
Le premier sujet est encore une polémique autour de Nicolas Sarkozy. Cette fois, l'ancien président a justifié hier la nomination de Rachida Dati au ministère de la Justice par ses origines. Écoutez l'explication du président.
J'avais voulu Rachida Dati comme garde des Sceaux parce que je m'étais dit que Rachida Dati, avec père et mère algériens et marocains, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens.
Dérapage inacceptable pour Hervé Mariton, par exemple, et pour vous sur les réseaux sociaux, Benoît.
Les internautes ont immédiatement sursauté. Emmanuel Beretta Dupont traduit illico. Ah, et en gros, les Arabes, la prison, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Quelle sarconnerie. Quoi, Dati n'aurait pas été choisi pour ses compétences? Mais alors Morano, Boutin, Besson, Douillet s'inquiète nimpe. Ça n'amuse pas Éole, qui trouve que Dati n'a aucun amour propre face à Sarkozy. C'est triste d'accepter de se faire humilier ainsi. Hallucinant silence de l'intéressé pour l'instant, confirme Catel. A-t-on encore besoin d'un nouveau dérapage de sa part pour savoir qui il est, ou plutôt qui il n'est pas, demande Zambo. S'il y avait un ministère de l'épilation, il choisirait un poilu, demande Carabouille. Ou Balkany, garde des Sceaux en 2017, ça aurait aussi du sens, si j'en crois Sarkozy, ajoute Nuria. Et alors, à gauche, ils font quoi? Nadjad, Kader Arif, Taubira, ça a du sens aussi et personne ne le conteste. Halte à la tartufferie, rétorque Allobroge. Simoussi rappelle d'ailleurs que Ségolène Royal a tenu des propos similaires sur la nomination de Nadjad Vallaud-Belkacem, le nouveau protégé de Sarkozy. Gérald Darmanin tweet, lui, qu'on devrait souligner le courage et l'audace de Nicolas Sarkozy d'avoir nommé Rachida Dati, plutôt que de faire des procès d'intention. Sarko a joué la carte beurette par seul opportunisme. Ses discours anti-banlieue confirment sa duplicité, rétorque Francis. La France n'a officiellement plus de colonies, mais les esprits de certains politiques sont encore colonisés. Il y en a marre, regrette Farah pour finir.
Allez, Pierre Berger, maladresse, dérapage ou circuler, il n'y a rien à voir.
Non, un dérapage, mais on ne va pas faire ça parce que les dérapages, il va en avoir sans arrêt. Sans arrêt. Alors, on est pour des mois et des mois de dérapage.
Mais celui-là...
Il est très grave, celui-là, parce qu'une fois de plus, on tombe dans le communautarisme. Une fois de plus, c'est de l'opportunisme. Une fois de plus, une manière d'attraper une communauté. Enfin, ce président qui n'était pas brillant est un candidat catastrophique.
Oula. Écoutez, l'avantage avec Nicolas Sarkozy, c'est que, et c'est rare chez les hommes politiques, il dit tout ce qu'il pense. Donc, là, il dit effectivement ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il pense
Je crains qu'il pense tout ce qu'il dit.
Il pense sans doute tout ce qu'il dit. Alors, évidemment, c'est très politiquement incorrect. Il y a deux versions. Il y a la version, il voulait dire que nommer une personne issue de la diversité, qui est un langage qui ne lui ressemble pas, hein, issue de la diversité à un poste régalien, ça avait du sens. Et c'est vrai que ça avait du sens. Hein. Je dois dire que, pour le coup, quand il avait nommé à l'époque Rachida Dati garde des Sceaux, il a quand même pris tout le monde par surprise, et ça a fermé le bec de pas mal, parce que même à gauche, quand on a voulu faire de la diversité, ces gens-là étaient toujours... Pardon, ces gens-là, il n'y a rien de... Attention, hein,
vous faites attention vous-même à une polémique possible.
Ouais. Ces gens-là, parce que après tout, c'est le vocabulaire, n'étaient pas nommés à des postes importants, c'était toujours sous-secrétaire d'État à la ville, une machin comme ça. Mais dans sa tête, je pense qu'il pense effectivement que, comme il y a beaucoup de Maghrébins et d'Africains qui sont pris dans les nasses, dans la nasse de la police, eh bien, pour le coup, il s'est dit que ça avait encore plus de gueule, sans doute.
Mais là-dessus, Pierre Berger, quand, par exemple, Daniel Fasquelle, UMP, dit Nicolas Sarkozy, il voulait simplement dire que quelqu'un qui a des parents marocains et algériens doit pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités. C'est pas comme ça que vous l'avez entendu, donc.
C'est pas ça qu'il a dit.
C'est pas ça qu'il a dit. Et donc, on n'a pas entendu ça.
Il a un peu dit ça, quand même.
Non, pas du tout.
C'est le ton qui montre qu'il dit pas complètement. Il dit pas que ça.
Roland avant Valérie.
Valérie. Non, deux choses. Chaque meeting donne lieu à un dérapage. Maintenant, la dernière fois, c'était le mariage gay. Mais moi, je dois avouer que j'ai entendu la totalité de ce qu'il a dit hier. Parce
c'était
que
pas un dérapage, c'est le mariage gay. Attention.
Oui,
c'est
non, ça, il a lâché.
Les mots en passant, c'est pas un dérapage.
Il dit tout ce qu'il pense. Il finit par dire tout ce qu'il pense.
Non, je sais pas s'il le pense. Sur le mariage gay, pour le coup, je suis pas sûr.
En tout cas, moi, pas, tôt ce matin, j'ai entendu la totalité de l'extrait du meeting. Mmh. Et c'était dans un contexte qui est assez différent du petit extrait qui vient d'être pris là. Il a commencé par vanter les mérites d'avoir mis une femme, Christine Lagarde, à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. Ce qu'il a dit sur la diversité, c'était assez long, sur Rachida Dati, etc. Et une fois n'est pas coutume, j'ai essayé de le défendre. C'est exact, je trouve, que lorsqu'il a constitué ce gouvernement, à l'époque, il a surpris, et il a surpris plutôt en bien, parce qu'il a pris... Souvenez-vous, Rachida Dati a fait la une de tous les magazines pendant des mois, parce que jamais jusque-là, il n'y avait eu une femme issue de la diversité à la tête d'un ministère aussi important.
On se souvient
important.
Bien, Rachida, Rama, Fadela, on se souvient bien de cette séquence.
Voilà, il a parlé aussi de Ramayad, qui venait d'Afrique, etc., qui avait vécu jusqu'à l'âge de 8 ans et que c'était bien de l'avoir mis au poste où elle était. Il a mis ça dans un contexte global. Souvenez-vous, il avait nommé Bernard Kouchner. Il avait nommé Bernard Kouchner, ce qui avait surpris tout le monde à l'époque, etc. Et c'est vrai que si on remet ça dans le contexte de l'époque et dans l'équilibre de son gouvernement de l'époque, je trouve que ce qu'il a dit n'est pas complètement absurde. Et on avait tous trouvé ça assez fort à l'époque, d'ailleurs. Souvenez-vous.
Pas moi. Et je vous pose une question. Vous trouvez, en dehors de ses origines marocaines et algériennes, vous trouvez que Rachida Dati était un bon ministre?
Qu'il a porté.
Elle a fait une chose, la réforme de la carte judiciaire qui n'était pas facile, que personne n'avait réussi à faire et qu'elle a faite.
Roland Quirol.
Oui, il dit vraiment deux choses dans ce meeting Sarkozy. Il dit d'une part qu'il a tout fait pour faire que des gens venant en effet de la diversité aient été représentés à un haut niveau dans son gouvernement. Et ça, on ne peut que le saluer, il l'a fait, et c'est parfait. Il dit une autre chose, à un autre moment de son intervention, c'est ce que nous venons d'entendre, et ne mélangeons pas tout, chère Valérie ou chère Yves. Il dit, et puis j'ai pensé, que fille d'Algériens et de Marocains, pour parler de politique pénale, ça serait bien. D'abord, on n'est pas nommé pour parler. On est nommé pour faire la politique d'un gouvernement.
Elle était magistrate, Rachida Dati, je pense.
Mais c'est pas, je ne rappelle pas ça. Il fait un lien
clair entre la délinquance chez les Marocains et les Algériens vivant en France, et le fait que ça en soit une qui soit ministre.
Enfin, je vous rappelle, puisqu'on l'a dit tout à l'heure,
c'est une véritable honte.
C'est pas la première fois qu'il l'a fait, il l'a fait à Grenoble.
Oui, mais c'est d'autant plus honteux que quand il l'a nommé, il a fait valoir ces histoires de discrimination positive. Moi, je suis pour qu'on fasse tout, en effet, pour faire de la discrimination positive pour ceux qui sont au bord de la société. Très bien. Mais jamais il ne nous a dit qu'elle avait forcément des compétences en matière pénale parce qu'elle était algérienne ou marocaine. C'est maintenant qu'il reconstitue ça dans ses meetings absolument invraisemblables qu'il tient pour être président de l'UMP je trouve que c'est assez grave et qu'il faut lui en tenir rigueur.
Je vais être en désaccord assez ferme. Le procès de Nicolas Sarkozy qui revient sur le devant de la scène recommence, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Madame,
non, pas
monsieur,
quoi qu'ils disent,
si. Monsieur Hollande a fait des meetings, tout le monde fait des meetings, il a le droit de faire des meetings, mais il est fait comme il veut. Ça, c'est la première des choses.
Bah
c'est la première des choses.
Nous écoutons et nous commentons comme nous voulons.
La deuxième chose, c'est que la diversité, pour lui, je vous livrerai un petit secret, est un cheval de bataille, c'est une obsession. C'est une obsession.
Je ne parle pas de ça.
Je le dis quand même. C'est une obsession et je me souviens avoir été présent avec d'autres confrères à l'Élysée où il y avait un confrère d'origine africaine justement qui lui disait « Mais la diversité, vous avez échoué. » Il dit « Mais la diversité, pas du tout. Mais présentez-moi, moi, des Africains, des Asiatiques et tout qui sont capables de faire des trucs. »
Et ils se mettent dedans, d'ailleurs, d'origine non française.
Je crois qu'il faut quand même être politiquement correct et dire que il a quand même
je voudrais rajouter que c'est le premier qui a fait la parité au gouvernement et que du coup c'est resté quand même pour aller c'est resté cette histoire de parité, c'était révolutionnaire à l'époque, c'est resté. Et la dernière chose, alors je vais peut-être pas être politiquement correct non plus et ça n'a rien à voir avec la phrase qui a été dite, OK, mais dans la famille de Rachida Dati, il y a eu pas mal de problèmes, non, je ne sais quoi, et elle avait une expérience personnelle par rapport à ça, je pense aussi. Alors,
vous aggravez votre cas. Son frère est en prison, c'est ça et tout ça. Donc, elle sait de quoi elle parle, son frère est en prison.
Non, mais après,
c'est ça qu'on a entendu, vous précisez quand même.
Rêve là.
Mais pourquoi en rêve? Bah, non, je suis pas d'accord.
Non, non, je pense que... pas du tout. Je pense qu'il l'a prise à garde des Sceaux aussi parce qu'elle était magistrate de profession. Il s'est dit que...
Et peut-être parce, que, peut-être parce que Cécilia Sarkozy lui avait demandé à l'époque aussi.
Aucun magistrat ne s'en est ensuite aperçu.
Je crois que...
Sauf Arpaillange.
Je crois, Marc-Olivier Fogiel, que c'est vous qui détenez la vérité.
Allez, assis, on change de sujet. 40 ans que les femmes peuvent disposer de leur corps. Mais est-ce aussi simple que ça aujourd'hui? On fait le bilan, on en parle dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
À 19h32 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Valérie Lecabre, Roland Quérol, Yves Tréhard et Pierre Berger. Il y aura eu un avant et un après Simone Veil. Simone Veil qui est la fierté des femmes pour Catherine Deneuve. Mais en 2014, les femmes peuvent-elles vraiment disposer de leur corps? Selon vous, les tabous sont-ils tous levés sur les réseaux sociaux, Benoît?
C'est encore tendu hein, sur les réseaux, comme le tweet la ministre en personne, Marisol Touraine, face au bruit pernicieux de la culpabilisation et du mensonge. Chacun doit défendre la liberté et l'émancipation des femmes. Qu'elles soient rassurées, les tweetos Veil, comme Simone, en apprenant que lors du vote d'aujourd'hui, certains députés ont voté contre Lucky Brocard, cette droite conservatrice religieuse et la manif pour tous qui veulent retirer ce droit aux femmes pour qu'elles deviennent des pondeuses. France Renaissance, au contraire, salue Jacques Bompard, seul orateur à s'opposer en séance à l'avortement et à demander pardon aux enfants non nés. Nous avons été 7 votants contre cette résolution. S'enorgueillit le député UMP Jean-Frédéric Poisson qui parle de grave atteinte au principe de respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. C'est attardé, rétorque Nora. Si on ajoute l'abstentionniste Collard, 8 hommes, souligne Merle Fou. Najat Vallaud Belkacem parle, elle, d'un acquis majeur de l'émancipation des femmes. L'histoire de ce droit n'a pas fini de s'écrire. Mobilisée, lance-t-elle. Question, quand une amie vous annonce qu'elle envisage d'avorter, vous lui dites « bravo, belle émancipation », lui demande « loup ». Avant, des femmes recevaient des aiguilles à tricoter dans leur sexe. Alors vous voyez, tous vos petits problèmes, l'âge d'un cam pour finir.
Valérie Lecabre, 40 ans après, vous dites qu'aujourd'hui tout est levé, tous les tabous sont levés, que les femmes disposent de leur corps comme elles le veulent, ou vous sentez une société encore réticente?
Moi, je dis d'abord la première chose, ce qu'ont dit les députés aujourd'hui, c'est que ça a été un tournant absolument majeur dans la vie des femmes, absolument considérable. J'ai trouvé ça intéressant parce que je l'avais oublié de me rappeler que Simone Veil, en fait, avait présenté ça sur le côté de la santé publique, en fait, et pas du féminisme. Je pense que c'est extrêmement important dans la compréhension de ce qui s'est passé.
Mais aujourd'hui, puisque le sujet est aujourd'hui, 40 ans après.
Oui, 40 ans après, quoi. Bah, l'IVG, c'est un droit, c'est un acquis, c'est rentré dans la vie de chacun, et tant mieux.
Bah, alors, pas autant que ça, quand
je vois, je vois Roland Quérol qui est... Oui, non, il y a des tentatives de remise en question, c'est ça dont vous êtes en train de parler?
Je voudrais seulement.
Bah, juste, vous passez devant Roland, allez-y.
Oui, oui, c'est bien qu'il y ait le coup de chapeau à Simone Veil. Moi, ça a été quand même un débat historique et ceux qui peuvent retrouver des images sur Internet, je les incite à le faire. C'est un débat qui a été une honte pour la République, dont elle est sortie victorieuse avec une dignité formidable. Une honte, cette Assemblée, les deux tiers de la majorité de droite ont voté contre cette loi à l'époque et c'était des hurlements de ces types insensés. L'un montrant un bocal avec contenant un fœtus, l'autre brandissant une Bible. Enfin, une chose absolument terrifiante. Aujourd'hui, 40 ans après, bon, l'IVG est reconnu comme un droit. Mais l'exercice de l'IVG pose toujours problème. Les médecins ont le droit de la refuser et il y a des départements dans lesquels les médecins ne sont pas suffisamment nombreux et donc il y a des réticences nombreuses qui se sont érigées et qui sont devenues, me dit-on, plus fortes depuis le débat sur le mariage gay. Comme s'il y avait une crispation de la société sur ces pratiques que certains condamnent d'un point de vue moral. Et du coup, il y a énormément de femmes qui ne peuvent pas se voir pratiquer l'IVG dans leur région. Et je pense que c'est pas par hasard que Marisol Touraine a annoncé qu'en janvier, elle allait proposer des mesures pour étendre l'IVG à toutes celles qui souhaitent en profiter.
Donc moi, je voudrais m'inscrire en faux là-dessus parce que je voudrais quand même que l'information soit précise. Si l'IVG...
Ce n'est pas votre cas, donc, Roland Quérol.
Oui. En certains secteurs, l'IVG est difficile d'accès. C'est parce qu'il y a énormément de centres qui ont fermé à cause de la carte médicale, de la carte hospitalière, et que beaucoup de centres, énormément de centres, par centaines, ont fermé. Et ce n'est pas le fait de médecins qui ne veulent pas pratiquer l'IVG. Enfin, ce qui est un droit.
Il y a eu beaucoup de reportages là-dessus.
Ce qui est un droit.
On en a fait la semaine dernière.
Oui, mais alors attendez, je vais vous dire une chose. Alors là, je voudrais dire, parce que là, j'en ai assez de voir la droite réactionnaire, tout ça.
Pour l'instant, personne n'a parlé de la droite réactionnaire.
Si, si, si. Ça a été dit.
Je vais rappeler qu'elle avait voté pour les
martiens. À l'instant, tout à l'heure. Ça a été dit tout à l'heure. Je voulais simplement dire une chose. C'est qu'il y a une minorité, ultra minorité de la droite qui effectivement répond à ces critères réactionnaires contre l'IVG, contre le mariage pour tous, contre le...
Mais c'est pas là.
Je suis désolé. Arrêtons de dire que la droite est réactionnaire. C'est une petite, infime minorité de cette droite qui aujourd'hui est réactionnaire. Et écoutez d'ailleurs les députés et parlementaires, plus généralement aujourd'hui, sur l'IVG. Ils n'ont pas l'attitude qu'ils ont eue. Ça, je reconnais qu'ils ont eu. Ça, Roland a raison.
En 76.
On parle pas des députés, on parle de la réalité sur le terrain. C'est ça.
La réalité sur le terrain, je vais vous dire une chose. C'est que la plupart des gens de droite, eh ben, ils pratiquent l'IVG. Donc, ils ne sont pas contre l'IVG.
Je ne sais pas parler des gens
de droite. Non, mais il faut le dire.
On a parlé dans la loi. Vous savez que ça a été rejeté, mais qu'il fallait évoquer un recours pour l'IVG. On voulait rajouter.
Un retour à la réaction de la droite.
Moi, je suis très heureux de ce que je viens d'entendre. Et je vous remercie. Parce qu'enfin, j'apprends que la droite n'est pas réactionnaire. Et que c'est tout simplement une petite partie de cette droite réactionnaire. Celle qui a demandé ma mort, qui m'a adressé des menaces de mort, ce qui m'avait lu un garde du corps pendant 3 mois, à propos du mariage gay. J'espère que c'était une petite partie. Mais apparemment, c'est une partie qui parle. C'est une partie bruyante. C'est une partie qu'on entend. Et tout ceci, je veux dire, il faut arrêter de mélanger les convictions religieuses à tout le reste. Les gens ont le droit d'être ce qu'ils veulent, de croire à ce qu'ils veulent, mais en effet, comme l'a dit Roland Cayrol, brandir la Bible dans l'enceinte de l'Assemblée nationale...
C'était à l'époque.
Ouais, mais moi, je voudrais juste dire une chose. Non, mais Pierre, je voudrais juste dire une seule chose. Je pense qu'on est en train de mélanger des choses qui ne sont pas le même sujet. Je pense que vous avez raison sur le mariage pour tous. Et c'est vrai aussi que l'IVG en France est devenu un droit. Je suis désolée. Oui, alors, c'est peut-être complexe. C'est peut-être. Il y a des médecins. Il y a la conscience des médecins qui ne sont pas tous obligés, entre guillemets, de le faire s'ils ne le souhaitent pas.
Absolument.
Mais bon, moi, ça ne me choque pas complètement non plus. Pourquoi pas?
Mais du coup, il faut garantir l'accès à l'IVG.
Sincèrement, les femmes qui veulent se faire avorter, elles y arrivent.
Les reportages dont parlait
c'est pas ce que montrent aujourd'hui tous les reportages dans ce pays.
Parce que ce sont les singularités des médecins qui encore aujourd'hui ne veulent pas pratiquer l'IVG.
On aimerait bien que ce soit des singularités, mais je crains que ça ne soit pas le cas, Yves Tréhard. Allez, à suivre, Info RTL, Martine Aubry va déposer une contribution en son nom au prochain congrès du PS. On en débat dans un instant.
RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
À 19h42, on refait le monde ce soir sur RTL avec Valérie Lecabre, Roland Cayrol, Pierre Berger et Yves Tréhard. RTL, vous le révélez donc à 19h. Martine Aubry a donc décidé de déposer une contribution qui portera son nom au prochain congrès du PS. Elle souhaiterait même que Jean-Marc Ayrault la signe. Alors, irresponsable ou courageux, Pierre Berger?
Je ne sais pas quoi répondre, mais comme je connais bien Martine Aubry et que je l'aime, je pense que c'est courageux.
Juste comme ça, par principe, est-ce que ce n'est pas suicidaire aussi?
Étant donné que je ne suis pas au courant, que vous me l'apprenez, que je l'ai appris en entrant ici dans ce studio, je ne sais pas de quoi on parle, de quelle contribution.
Elle veut montrer ses convictions et surtout faire connaître ses propositions non au social-libéralisme, non aux 50 milliards d'économies sans contrepartie, par exemple. Pourtant, c'est la politique menée par François Hollande, aujourd'hui élu à l'Élysée. Ça, c'est précisé. Bon.
Je peux vous dire que c'est la politique que j'approuve, mais elle a bien le droit d'avoir une opinion contraire, voire opposée. On peut pas l'accuser, là.
On peut se dire qu'il faut peut-être, à gauche, resserrer les rangs entre François Hollande. C'est une question. C'est la question du débat.
Oui, mais alors, je ne vous apprendrai pas que Martine Aubry ne faisait pas partie des rangs premiers autour de François Hollande, quand même.
Moi, je trouve que si vraiment elle confirme cette intention... C'est tout de même assez grave pour le Parti Socialiste, parce que imaginez...
C'est ça la question de ce soir.
Imaginez un congrès, bon, on a jusqu'à juin de l'année prochaine, mais imaginez un congrès dans lequel s'affrontent les partisans de Hollande-Valls d'un côté, et pratiquement tous les autres courants qui se fédéreraient autour de Martine Aubry, qui ne dit pas qu'elle ne serait pas candidate à la fonction de premier secrétaire, c'est un séisme gravissime pour la vie politique française. Moi, je veux bien que de temps en temps, quelques frondeurs fassent savoir qu'ils aimeraient une politique un peu plus sociale, un peu plus à gauche, un peu plus keynésienne. Mais là, aller au Congrès avec des contributions ou des motions pour contrer le président de la République et le Premier ministre, ça me paraît franchement suicidaire.
Mais Pierre Berger, il ne vous a pas échappé quand même que le Parti socialiste, sauf miracle, va après les territoriales et après les régionales terminer en lambeaux.
Oui, mais est-ce une raison pour que les gens se disputent déjà les dépouilles ?
Mais les régionales n'auront pas encore eu lieu.
Moi, je crois
qu'il y a une chose qui est manifeste, et on le voit, c'est pas propre au Parti socialiste. Il y en a assez, je crois que les Français en ont assez, de ces vides partis qui ne veulent plus rien dire avec des gens qui n'ont rien à faire ensemble. C'est vrai à droite, c'est vrai à gauche. On va se présenter en 2017, la France, si ça continue comme ça. Et à mon avis, ça sera le cas. Et là, il faudra quand même reconsidérer notre paysage politique avec trois candidats plus ou moins issus de l'UMP, trois candidats plus ou moins issus du Parti Socialiste et Madame Marine Le Pen qui se frottera les mains puisque les gens sont tellement divisés dans la droite et la gauche.
C'est la question de ce soir. Hein.
Exactement. Et bien que Madame Le Pen en tirera les marrons du feu. Ouais. Et c'est dramatique.
Oui.
Et je vais aller plus loin. Ouais, mais... Aujourd'hui, vous avez peut-être plus de proximité entre un homme comme Bruno Le Maire et Manuel Valls qu'entre Manuel Valls et Madame Aubry.
Oui.
Et c'est absolument incroyable.
Non, mais là où Roland Cayrol a tout à fait raison, c'est que ce qui se joue, la partie qui était en train de se jouer, est de savoir si pour la première fois en France, le congrès d'un parti politique ne va pas aller dans le sens du président en fonction, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc si cette chose-là arrivait, s'il y avait une motion adoptée contre le président de la République, ça serait absolument majeur, parce que ça veut dire qu'il n'aurait plus de majorité, qu'il ne serait plus soutenu, et là, ça serait un événement absolument dramatique et considérable. Mais je pense qu'on va un peu vite en besogne. Une contribution, c'est un texte qui est une contribution d'idées, qui est une contribution qui est Martine Aubry écrit noir sur blanc ce qu'elle pense et ce qu'elle veut apporter au débat pour
elle
l'instant.
Elle l'a dit déjà en interview dans le JDD, par exemple.
Je voudrais suivre le raisonnement deux secondes. Le moment important, ça sera la motion. La motion, c'est au mois d'avril et ça sera là-dessus que les gens du PS, les partisans du PS, vont voter. Aujourd'hui, on en est au débat d'idées et il y a jusqu'en avril pour voir si oui ou non les gens vont pouvoir se mettre d'accord et vont pouvoir aller ensemble. Et si la motion que Cambadélis était en train d'essayer de préparer derrière le président de la République pourra recueillir une majorité ou pas. Qu'est-ce qu'elle fait Martine Aubry pour l'instant ? Elle a raison. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit à la Coupe Davis, on aimerait tout savoir. On ne sait pas trop, c'est pas trop sorti.
Parlé de la réforme du tennis.
Qu'est-ce qu'elle fait Martine Aubry aujourd'hui ? Elle place ses pions au cas où quoi ? Au cas où les élections départementales seraient une catastrophe et où effectivement le congrès prendrait le risque d'aller plus loin et de désavouer le président de la République. Et peut-être qu'elle se place pour Matignon pour la dernière partie de Matignon au moment de la campagne présidentielle. Mais n'allons pas trop vite quand même, il y a encore du temps. Voilà.
Allez, dernier sujet dans un instant, Jeff Koons au Centre Pompidou, de l'art ou du cochon ?
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
À 19h50, on refait le monde ce soir avec Pierre Berger, Yves Tréhard, Roland Cayrol et Valérie Lecâble. Une rétrospective dont Jeff Koons à Beaubourg. Vous savez, Jeff Koons, c'est l'artiste le plus cher du monde avec ses œuvres pop et kitsch inspirées de la vie quotidienne. Vous avez forcément vu ses balloon dog colorés, des statues de chiens à l'apparence de ballons de baudruche. Déjà en 2008, son exposition au Château de Versailles avait fait scandale. Alors, créateur ou imposteur sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Bram le résume en trois mots, argent, kitsch et controverse. Avec 110 collaborateurs et un chiffre d'affaires digne d'une multinationale, il peut effectivement voir grand, demande Michel, mais s'agit-il d'art pour autant ? MMG a tranché, ce ne sont pas des œuvres, ça relève plus du marketing et de l'entreprise. L'art n'a pas de définition, il est libre, tout un chacun pour lui donner un nom, rappelle Versailles. L'imposture règne ici en maître, paré du manteau de l'art et de l'esprit critique, tartufferie, lance Marie. Elodie remarque déjà que son look, reliquat de ses années passées à Wall Street, transpire plus le capitalisme triomphant que l'artiste maudit. Koons, c'est dollars et du cochon, concède Libération. Le critique américain Jed Pearl confie lui une exaspération grandissante vis-à-vis du pouvoir des marchés. En quoi le phénomène Koons doit-il nous fasciner ? On ne sait pas trop, tacle-t-il. Beaucoup soulignent en effet un double discours, critiquer l'art et en dominer le marché. Rien que ça, c'est déjà peut-être une œuvre, Marco.
Pierre Berger, vous qui en avez des œuvres, vous avez des Koons, hein ?
Non.
Trop
vous
cher
savez, je suis. À l'époque où j'achetais, c'était pas trop cher. Koons. Moi, je voudrais dire, je suis un peu fatigué d'entendre le mot art à toutes les sauces. Il y a même eu un salon des arts ménagers. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Est-ce que c'est un artiste? Peut-être. Mais je veux vous rappeler que dans tous les temps, depuis tout le temps que l'art existe, que la peinture, parlons de peinture, existe, ben, il y a eu très peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la peinture, mais il y en a très peu qui sont des maîtres, des génies, qui ont fait une œuvre qui reste.
Peut-être que l'œuvre de Kunz va rester, non?
Non, je crains précisément qu'il fasse partie des autres, dont on ne retiendra pas le nom. Et puis, j'ai entendu sur les réseaux sociaux qui se dit, ce qui est dommage, mais c'était déjà un peu ça avec un autre peintre qui s'appelait Salvador Dali. Vous savez que André Breton avait fabriqué un anagramme qui était à vide à dollars, mm-hmm. ce qui veut bien dire la même chose, c'est que l'art soit rendu au niveau du marketing. Et ça, c'est très difficile à accepter.
Moi, je ne sais pas si c'est un artiste ou pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu deux expositions, une au Palais Grazzi et une au Palais des Glaces à Versailles. Et que franchement, celle au Palais des Glaces à Versailles, c'est une des choses les plus magnifiques que j'ai jamais vues. Cette espèce d'opposition entre le lieu totalement traditionnel et l'originalité, l'inventivité, etc. D'avoir mis les deux en même temps, cette lune qui était au fond du Palais des Glaces, etc.
C'est donc de l'art, puisque c'est une émotion.
Franchement, moi, ça m'a créé une grande émotion. Donc, je ne sais pas quelle est la définition de l'art. Je n'ai pas je suis modeste par rapport à ça. Je vous laisse.
Personne ne va s'aviser de donner une définition de l'art.
Mais j'avais trouvé ça magnifique, moi, personnellement.
Est-ce que c'est quand même pas proche de l'art? L'art, ça suscite une émotion, donc.
Oui, non, mais je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent, il sait de quoi il parle, donc opposer le grand siècle, celui de Louis XIV, à des œuvres contemporaines, ça marche à tous les coups, cette histoire. Marche à tous les coups.
Moi, je pense que Jeff Koons a un vrai talent et que c'est un gros malin. Il fait des objets qui ont des formes pas désagréables pour beaucoup de gens, qui sont souvent assez drôles et qui sont faites dans des matériaux nobles. Et ça marche. Alors,
c'est surprenant en plus.
Moi, je trouve ça surprenant dans le mauvais sens du terme. Moi, l'exposition dont vous parliez à la Galerie des Glaces m'a révolté. La présence de son homard à l'entrée m'a surpris, mais pas plus. Voilà, je n'irai pas à Beaubourg parce que j'en ai vu assez du Jeff Koons, qui a, Dieu merci, dans la création contemporaine, des choses autrement plus intéressantes.
Bah, l'histoire de l'art nous a appris à être très, très humble vis-à-vis de tout ça, puisque de toute manière, je pense que c'est la postérité, aussi bien chez les écrivains.
Mais non, on sera tranquille.
Chez les écrivains. Non, mais chez les écrivains, d'un domaine que je connais un peu mieux que le monde de l'art pictural ou de la sculpture, qui fait le choix, qui fait le tri, finalement. Là, ce qui me surprend avec Koons, mais c'était la même chose après tout avec les surréalistes, c'est la rapidité avec laquelle ce monsieur, qui est évidemment très malin, très intelligent, quand on l'écoute, d'ailleurs c'est intéressant de l'écouter, a éclos, finalement. Personnellement, pour ce qui me concerne personnellement, à Venise, j'ai fait plusieurs stages au Palazzo Grazzi, à Louane de Mer, à tout ça. Je suis complètement hermétique à ce genre, mais encore une fois, c'est une question de sensibilité, c'est une question d'œil. Je suis peut-être même, c'est peut-être justifié parce que je suis de droite, un peu plus classique.
Vous n'êtes pas réactionnaire, mais vous êtes classique. Donc on a bien noté ce soir ce qu'est la droite.
Il y a quand même une sanction. Mais après, on va pas juger. On n'aime pas, on machin. Moi, j'adore. Vous aimez pas. Chacun son truc. Hein, je veux dire, on va pas juger. Mais simplement, le fait qu'il soit le plus cher du monde, ça veut dire que les gens l'achètent. Il y a un certain nombre de gens qui ont mon avis quand même, qui sont prêts à mettre des fortunes pour acheter les œuvres.
Alors là, vous êtes
Jeff Koons.
Alors là, vous venez d'abord. Un sujet, si j'avais été vous,
je n'aurais pas abordé.
Vous n'auriez pas dû l'aborder. Parce que c'est cette cote, ces cotes de beaucoup d'artistes, est simplement fabriquée par des marchands, pour des marchands, et entre quelques collectionneurs, dont je ne citerai aucun nom. Et voilà comment sont faites ces cotes. Mais il y a des gens, pour qu'on ne nous prenne pas, des gens de droite dans votre cas, ou de gauche réactionnaire dans mon cas, car ça existe aussi. Croyez-moi, il y a des grands artistes contemporains. Il y a des grands artistes contemporains, des Allemands qui formidables. Ils ne valent pas un sou.
Non, j'imagine.
Anselm Kiefer, Anselm Kiefer ne vaut pas un sou. Richter ne vaut pas un sou. Ah bon.
Je sais pas bien.
Mais voilà des grands artistes. Allez, merci à tous les quatre. Merci à Pierre Berger, merci à Yves Tréhard, à Roland Kayrol et à Valérie Lecable. Après le flash de 20h, bonsoir Thomas Hugues, bonsoir Sidonie Bonnec.
Bonsoir Marc-Olivier Faujix.
Comment ça va Marco?
Ça me va pas mal, ouais, ça, puisque partout à Tix ce soir, la musique, vous entendez évidemment du premier Astérix, le dessin animé. Journée Astérix sur RTL évidemment avec le film qui sort aujourd'hui.
Et justement, est-ce que les Gaulois sont... dans la vraie vie, évidemment, ils n'existent plus, mais est-ce qu'ils étaient comme dans la BD Astérix? C'est ça qu'on va se poser.
Est-ce qu'il y avait un barde qui chantait faux, quoi?
Bah ouais, on va écouter, donc on retombe en enfance avec vous après le flash de 20h, c'est ça?
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Mais qu'est-ce que vous fabriquez?
Mais qu'est-ce que c'est que ça, partout à TX?
RTL Soir, avec Marc-Olivier Fogielix.